pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi un livre de Stephen King aujourd'hui. Vous allez voir, ce sera dans le thème du jour avec notre invité. J'ai choisi donc la première phrase de La Rédemption de Shawshank, adaptée en film sous le titre Les Évadés, avec Morgan Freeman et Tim Robbins. Voici la première phrase du texte. Il y a un type comme moi dans chaque prison fédérale ou locale des États-Unis, je suppose. Je suis celui qui peut tout vous avoir. L'homme qui parle, le narrateur, c'est Red, un vieux détenu. Il va nous raconter l'histoire d'Andy Dufresne, un prisonnier ancien banquier qui va devenir son ami et le héros de ce livre génial. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez Laurent Mariotte. Il nous a ouvert les portes de sa bibliothèque et de sa cuisine, évidemment. L'équipe des libraires de l'émission se tient prête pour de bonnes idées de lecture et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Doland. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix et Livre, c'est parti, premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau. On le connaît pour Le Signal, L'Appel du Néant ou La Patience du Diable ou L'Âme du Mal, entre autres, que des titres toujours très gais. C'est normal, il aime nous faire peur et se faire peur, il revient avec Insectes. Chez Albin Michel, il s'attaque à l'une des pires phobies de l'humanité, les bestioles, avec une idée, et si les insectes s'unissaient contre le genre humain? Il se trouve qu'ils sont légèrement supérieurs en nombre. On compte 1,5 milliard d'insectes pour un humain. Donc s'ils se décident à en finir avec nous, on a effectivement un peu de soucis à se faire. Et si vous voulez vous administrer une bonne dose d'angoisse jubilatoire, je vous conseille donc ce livre Insectes de Maxime Chattam qui est avec nous. Bonjour Maxime Chattam.
Bonjour.
C'est en regardant des scarabées ou des mille-pattes que vous vous êtes dit, tiens, ça ferait des bons personnages pour mes histoires.
C'est vrai, oui. En fait, c'était des fourmis, en l'occurrence. Je me suis posé la question, combien est-ce qu'il y a quelle est la biomasse des insectes par rapport à celle des êtres humains? Je me suis rendu compte qu'on était absolument dérisoire. Oui. Et là, je me suis interrogé, comment est-ce que ces bestioles communiquent entre elles et pourquoi est-ce qu'elles ne communiquent pas toutes entre elles pour, quelque part, s'allier, hein, comme font des fourmis à un moment quand elles veulent chasser d'autres fourmis de leur territoire? Pourquoi elles ne font pas la même chose avec l'espèce humaine? On serait balayé en quelques semaines, probablement, au maximum. Et à partir de là, est née l'idée de ce roman.
Effectivement, parce que ça commence par un meurtre. C'est le détective Atticus Gore qui enquête dessus. Nous sommes aux États-Unis, à Los Angeles. Un cadavre a été retrouvé complètement ravagé par des insectes. Mais le truc pas normal, effectivement, c'est qu'il y a trop d'insectes différents. Et on explique dans le livre que, normalement, ils auraient dû s'entre-dévorer entre eux et pas s'allier contre l'humain.
Exactement, c'est-à-dire que quand quelqu'un décède dans la nature, il y a différentes escouades d'insectes qui vont se succéder, jusque-là c'est normal, mais elles se succèdent sur plusieurs années parfois. Là, le type était vivant la veille au soir, on le retrouve le lendemain matin, il a été complètement bouffé à tous les stades par les insectes, sauf que ça n'aurait dû se produire qu'en plusieurs années, donc on ne comprend pas comment ça a pu se passer. Autour de lui, il y a plein de petites bestioles écrasées qui prouvent qu'il y en a eu beaucoup en même temps, comme si d'ailleurs lui-même avait tenté de fuir, peut-être en les écrasant. Et l'enquête démarre de cette manière-là. Alors on se demande, est-ce que ça va être un roman fantastique? Est-ce qu'on va avoir une explication finalement rationnelle d'ici la fin? C'est un peu tout le défi que je m'étais lancé à l'écriture de ce roman.
Oui, on ne comprend pas aussi, parce qu'on ne peut pas comme ça d'entrée prêter à des insectes une volonté de tuer. Je veux dire, un objectif comme ça de tueur.
Non. C'est
ça, alors, ce qui est intéressant.
Oui, c'est ça. Alors, soit on envisage l'hypothèse la plus dramatique et presque un peu fantastique, encore que, qui consisterait à dire que les insectes se sont à un moment alliés pour se débarrasser d'une force supérieure a priori à la leur qu'à l'être humain. Mais ça sous-entend quelque chose d'assez effroyable.
Oui.
Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est juste une manipulation? Est-ce qu'un tueur a sévi, a trouvé un moyen de faire croire à tout ça? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Voilà, le roman envisage différentes hypothèses dès le début. La vérité, vous ne la découvrez qu'en lisant le livre.
Évidemment. Et alors là, on est à Los Angeles avec Atticus Gore, mais bientôt on se retrouve à New York avec Kate Cordell, qui est la nièce d'un grand détective privé qui a repris le flambeau et qui est donc détective privé, qui est à la recherche d'une jeune fille. A priori, les histoires n'ont pas tellement de lien. Et puis finalement, évidemment, ça se rejoint. Mais ce sont surtout, ce qui est intéressant, deux personnages très complémentaires finalement. Et vous êtes toujours comme ça dans vos livres, vous marchez souvent sur deux jambes.
Oui, j'aime bien. C'est-à-dire que deux personnages dans un roman policier, jusque-là, pourquoi pas. Ça permet, en plus, c'est pratique pour le romancier d'avoir deux récits différents. C'est plus simple pour créer du suspense, hein, parce que vous êtes dans un chapitre avec l'un, vous dites « Oh, je veux savoir ce qui va se passer ». Fin du chapitre, on passe à l'autre, on va dire « Bah non !» Et puis finalement, fin de ce chapitre-là, vous voulez aussi savoir ce qui va se passer à New York. Donc, y a quelque chose d'assez pratique, mais au-delà de ça, en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant pour le romancier, qui est de ne pas pouvoir toujours mettre tout ce qu'on aimerait dans un personnage, dans ce qu'il fait, etc. Et de se dire, oui, mon sujet est quand même plus complexe, plus vaste, y compris dans le sous-texte. Et avec un deuxième personnage, je peux avoir cette espèce d'équilibre global, cette complémentarité qui parfois est pratique, voire nécessaire. Et au-delà même de ce qui est évident dans les deux intrigues policières, il y a tout ce qui est sous-entendu sur la nature humaine. C'était un moyen pour moi aussi de faire le portrait de l'Amérique moderne, que ce soit la côte ouest américaine, la côte est avec New York. J'avais ces deux personnages qui incarnaient quelque chose d'intéressant, avec également une présence, sans trop en dire, dans la fin du roman avec le Midwest américain. Donc finalement, je balayais tout le territoire américain et sous couvert de thriller, de « on va s'amuser, on va se divertir », j'aime bien interroger le lecteur, le pousser dans ses retranchements vis-à-vis de ses peurs, l'interroger sur pourquoi est-ce que j'ai peur de ça, mais aussi sur notre société aujourd'hui, où est-ce qu'elle est et quels sont ses plus grands travers et qu'est-ce que ça raconte de ce que nous sommes finalement.
Pourquoi les États-Unis d'ailleurs ?
Bon, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que j'ai eu la chance de grandir entre la France et les États-Unis, donc c'est un pays que je connais plutôt bien. J'ai pas de problème de culture américaine. Situer une intrigue là-bas, c'est pas plus compliqué pour moi que de la situer en France. Et puis aussi, et essentiellement parce que les États-Unis, c'est quand même l'incarnation un peu du monde moderne, de ses excès. On dit toujours que ce qui se passe aux États-Unis se produit en France dans les années qui suivent. On n'est pas tout à fait loin de ça. Donc, il y a une espèce de un peu pays modèle, quelque part. Je ne dis pas que c'est le modèle à suivre, mais en tout cas modèle de ce que devient le monde en général. Et du coup, c'est une belle incarnation, belle est peut-être pas le terme d'ailleurs, c'est une incarnation en tout cas intéressante de notre civilisation dans ce cas-là de plus excessif, mais hélas, aussi plus représentatif.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi plus fantastique, en fait, puisqu'on s'écarte un peu de France et donc on voyage, on se dépayse un peu, ça permet de créer une intrigue plus forte peut-être.
Alors, il y a ce côté un
plus facilement dans le fantastique.
Oui, il y a cette distance qu'il y a avec les États-Unis, mais je me suis beaucoup interrogé sur ce sujet-là au fur et à mesure des années, parce que j'écris pas mal de mes romans là-bas et d'autres en France. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que certaines intrigues que j'écris, je peux pas les situer aux États-Unis, et certaines, je me dis, bah non, c'est une intrigue qui devrait se passer en France. Mais je crois tout simplement que on est tellement, notre imaginaire collectif est vraiment façonné en grande partie par les médias américains. Aujourd'hui, la plupart des séries qui fonctionnent sont des séries américaines, les films aussi, les romans. Et donc, dès qu'il s'agit d'un roman un petit peu, ou en tout cas d'une histoire qui est un tout petit peu à la lisière du plausible, où on se dit, oh bah non, ça peut pas être possible, tout ce que les Américains appellent « bigger than life », bah aux États-Unis ça fonctionne, on y croit. Finalement, on se dit, oui, bon, ces insectes, forcément, il va nous sortir un truc plausible à la fin. Mais en attendant, c'est les États-Unis, donc c'est pas trop grave, je peux y croire, en tout cas, je peux adhérer au récit. En France, tout de suite, c'est plus compliqué. On a du mal à adhérer à ce type de récit-là.
C'est trop proche de nous. C'est comme quand on va à New York ou à Los Angeles pour la première fois. On est dans un univers à la fois hyper familier à cause des séries et en même temps complètement dépaysant.
Oui, complètement. Complètement. Et puis, mais encore une fois, c'est parce que notre imaginaire a été en grande partie marqué par les productions audiovisuelles, en grande partie américaines. Et vous savez, ce principe de la suspension de crédibilité qui est propre à la fiction, c'est-à-dire, on cesse d'être soi-même en train de s'interroger sur ce qu'on lit et on se laisse happer par le récit tout en se laissant embarquer sans trop s'interroger sur tout ce qui est crédible ou pas. C'est un principe qui est fondateur dans la fiction. Mais ce principe de suspension de la crédibilité, il est très marqué par la culture américaine dans notre façon d'aborder nos divertissements. Et donc ça fonctionne assez facilement et assez rapidement. Je pense qu'on gagne du temps en fait en tant que romancier. Si le même récit j'avais dû le situer en France, ça aurait été possible. Mais il aurait fallu que je le balise tellement d'éléments cartésiens, de préciser que mais ça se passe comme ça, mais si c'est possible en France, que ça aurait été un roman beaucoup plus long finalement.
Et on continue justement à explorer les États-Unis avec nos amis les bêtes. Restez avec nous, on retrouve Maxime Chattam et ses bestioles tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Maxime Chattam aujourd'hui pour son nouveau roman Insectes chez Albin Michel. On l'a dit, Maxime Chattam, et on le sait, vous êtes spécialisé dans l'horreur, pas seulement, vous avez fait dans l'ésotérique aussi, dans le thriller, et bon, c'est souvent policier aussi. Mais vous aimez vous faire peur. Vous aimez faire peur. Pourquoi ? Vous n'avez pas assez peur dans la vie ? Vous avez besoin de ce shoot de frayeur ?
Quelque part, peut-être, oui. J'ai un peu tordu le cou à pas mal de mes peurs en grandissant, en vieillissant, donc... J'imagine qu'écrire sur les peurs, c'est un moyen pour moi de jouer à me faire peur. Vous savez, de la même manière qu'on va dans une fête foraine, on se dit « Oh non, je ne vais pas faire cette montagne russe, elle est énorme. » Et puis on y va quand même, quoi. Parce qu'on va jouer à se faire peur et à crier. Au-delà de ça, finalement, il y a aussi quand même un moyen essentiel et captivant pour moi, je trouve, d'aller creuser dans la nature humaine. Quand on va creuser dans nos peurs collectives, finalement... On est obligé de creuser dans la part d'ombre de l'humanité et on en ressort avec des choses intéressantes parce qu'il y a des choses à dire sur nos peurs. Elles racontent beaucoup de nos obsessions, de nos travers et de notre fabrication en tant que collectivité, mais aussi en tant qu'individu, du coup. Donc je trouve qu'écrire sur la peur, c'est finalement se rassurer.
Mais à chaque fois, vous expliquez que vous n'avez pas vraiment peur de ce que vous décrivez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes devenu un peu blasé de la peur, comme un drogué qu'on a trop pris et qui a besoin d'encore plus de shoot, encore plus de peur ?
Non, je crois que c'est simplement, j'ai pas peur du noir, j'ai pas peur de ce que je ne connais pas nécessairement, j'ai pas peur des insectes. Mmh. C'est juste là. En revanche, justement, je vais essayer de créer un climat dans lequel je pourrais essayer de jouer à me faire peur. Et donc, il va falloir un peu plus que juste me mettre une petite araignée sur le bras pour me faire peur. Mais en revanche,
ça faut toujours plus quand même.
Oui, mais c'est surtout qu'en fait, c'est un moyen de jouer avec le lecteur. Vous savez, c'est une espèce de convention qu'on a. Ils me font confiance, ils lisent mon livre, donc moi, j'essaie de les embarquer dans le récit. Et je joue finalement avec ça jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses scènes du quotidien. Il y a une scène, au moment où un personnage prend sa douche, il a du shampoing plein les cheveux, il voit rien, il en a plein les yeux. Et on a tous vécu ça. Et moi, à ce moment-là, je décris l'araignée qui est en train de descendre le long de son fil au-dessus de lui,
et
doucement.
On la sent quand on lit.
Voilà. Et toutes ces séquences-là, quand on dort, et le type qui dit qui va s'endormir la bouche ouverte avec potentiellement un mille pattes, un scolopendre énorme qui va s'approcher pour entrer dans sa bouche, c'est jouer finalement avec les éléments du quotidien.
Le roman s'ouvre avec Jenny. Une dame dans le Kansas qui lit beaucoup, tout le temps, sur son perron. Elle lit tout ce qui lui passe dans les mains, sauf, je cite, « Elle n'avait jamais aimé les récits horrifiques. Ce n'était pas son truc. Les Stephen King et consorts, elle n'y arrivait pas. Pourquoi payer pour frémir alors que le monde était déjà bien assez rempli d'abominations comme ça ?» C'est quelque chose que vous entendez beaucoup, ça, Maxime Chattam. C'est une remarque qu'on vous fait souvent.
Mais alors, c'est une remarque que j'ai pu entendre, mais au-delà de ça...
Vous faites à vous-même ?
Oui, voilà. C'est une question que je me suis souvent posée. Je me suis souvent demandé... Pourquoi est-ce que j'écris des choses pareilles ? Il y a déjà tellement d'aberrations, d'horreurs, le monde est parfois tellement dramatique, pourquoi en rajouter une couche ? Ben justement, en fait, parce que dans ces moments-là, je crois que c'est le moment où il faut parfois aussi des récits qui font peur, qui nous interrogent, parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de décrypter toutes ces peurs qui nous entourent, d'apprendre à les appréhender autrement, de comprendre ce qu'elles racontent du monde, et je crois que les romans, et c'est pour ça que les films d'horreur ou les romans qui font peur marchent autant encore aujourd'hui, parce que justement, on sort de là avec le sentiment que d'abord, on a eu dans un petit shot de peur, mais totalement contrôlé, on savait qu'on pouvait jouer à se faire peur, mais qu'au final, il ne nous arriverait rien. Et puis au-delà de ça, moi, c'est mon objectif, chacun de mes romans cache une réflexion, et j'espère que les lecteurs sortent du livre totalement divertis, mais également avec pas mal de questions et quelques réponses aussi.
Et alors justement, dans le passage que je viens de citer, Jenny finalement se met au récit horrifique et puis elle lit, il y a une petite mise en abyme, elle lit un livre qui parle d'insectes qui attaquent des humains. Et elle sent, comme ça, elle explique qu'elle sent, rien qu'en lisant les insectes qui grouillent sur elle, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les insectes, c'est très particulier. C'est vrai que rien que d'en parler ou en lisant votre livre, justement, on les sent grouiller autour de nous. Qu'est-ce qui se passe avec les insectes ? Pourquoi les insectes en particulier ?
Mais les insectes sont pratiques parce qu'ils incarnent une bonne partie des peurs de l'humanité. Ils sont associés au noir parce qu'ils vivent dans des lieux noirs, obscurs, souterrains. Ils sont associés à des tabous humains, le cannibalisme, la plupart d'entre eux se dévorent. Et en même temps, les insectes, il y a de très nombreux insectes sociaux qui nous ressemblent beaucoup. Et c'est pour ça que ce livre-là, à un moment, j'ai su que cette idée d'insecte était parfaite, parce qu'elle allait me permettre de parler de l'humanité. Parce que nous sommes quelque part très proches des insectes sociaux. Nous obéissons à des reines, simplement nos reines à nous sont moins nommées. Pourtant, ce sont les reines du consumérisme. Aujourd'hui, notre société s'est construite à travers nos actes d'achat quotidiens. Nous avons, à travers nos quotidiens et notre comportement de consommateur, mis en place des reines auxquelles nous obéissons. Ils façonnent le monde, les grands groupes, les GAFA notamment, façonnent le monde de demain, mais ils le façonnent parce qu'on leur a donné finalement le choix, et on continue régulièrement de le faire.
Les grands groupes et la technologie ont un rôle à jouer aussi dans le livre, mais on n'en dit pas plus.
...14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Et j'aimerais qu'on parle un peu de votre manière d'écrire, de vos méthodes. Vous écoutez de la musique. Et là, on entend justement, c'est la bande originale de la série Mindhunter. Et vous mettez souvent les musiques que vous écoutez pendant l'écriture, vous les mettez en exergue du livre. Vous conseillez même aux lecteurs d'écouter ces musiques pour vous lire. Le rythme de la musique, ça vous dérange pas pour écrire ?
Au contraire, j'adore. Après, je la sélectionne attentivement. C'est-à-dire que quand je prépare ma documentation, mes notes, dans la phase qui précède l'écriture d'un roman, il y a un petit moment que j'aime bien, c'est me plonger dans ma discothèque. J'ai 700-800 albums de musique autour de moi. D'accord. Et je vais sélectionner tous ceux, alors ça peut être un grand nombre, hein, qui peuvent correspondre à l'atmosphère du roman. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de texte, il ne faut pas qu'il y ait de parole, parce que comme ça...
C'est ce que j'allais dire, oui.
Oui, je suis complètement immergé dans l'atmosphère et pas écouter des mots. Et au fur et à mesure des mois d'écriture, j'écrème et je me retrouve à tourner avec un petit peu moins. Et je conseille en général, comme je l'ai fait là, les quelques albums qui m'ont le plus marqué. Et je trouve que c'est génial pour écrire, c'est génial pour lire, parce que ça renforce le cocon, vous savez, de concentration, ça nous coupe du monde. Il y a nous, le récit, et puis cette musique qui fait une barrière avec le reste du monde.
Alors là, par exemple, il y a Mindhunter, il y a Seven, pareil, la musique du film. Il y a Merin, l'instinct de mort, et The Left Lover. C'est que des musiques de films, en fait.
Oui, complètement. Musique de films, de séries télé, parce que, justement, elles n'ont pas de texte, et elles sont dans des atmosphères très, très singulières, qui correspondent, en général, au film ou à la série dont elles sont issues, et qui moi, m'ont porté. Alors, c'est vrai, quand j'écris, parfois, il m'arrive de changer d'un morceau à l'autre, un truc qui est trop rythmé, un autre qui n'est pas dans l'atmosphère. Mais globalement, ça ne dérange pas à la lecture de laisser tourner un album derrière. Je pense qu'on peut se laisser happer. Et de temps en temps, ça va tomber parfaitement. Le morceau va être dans la tonalité exacte du passage qu'on est en train de lire. Et je vous mets au défi d'essayer. Vous allez voir, ça, parfois, ça provoque un petit sursaut d'émotion.
Mais vous êtes fait, d'ailleurs, de toutes ces références musicales, mais pas que. Dans le roman, il y a plein de clin d'œil, notamment Atticus, le héros, c'est le prénom du personnage d'un grand classique américain, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui s'appelle Atticus Finch. Vous lui avez donné le prénom du héros.
Oui, et en fait, je le fais quasiment pour tous mes personnages. C'est-à-dire que j'aime bien jouer avec des clins d'œil, des références. Et puis au-delà de ça, je trouve que quand vous donnez un nom à un personnage, vous ne choisissez pas au hasard, et donc il est emprunt quelque part de cet héritage-là. Alors, les lecteurs ne le savent pas en général, mais moi je le sais pendant l'écriture, et donc j'essaye d'en jouer un petit peu. Je me fais des auto-références de personnages, de trucs que j'ai aimés, d'émotions personnelles, etc. Et je trouve que ça nourrit un récit, c'est-à-dire que si on se pose derrière et qu'on va au-delà même du divertissement et qu'on se dit quel est le sous-texte du roman, à travers tous ces petits choix de personnages, de noms, d'évocations, de références littéraires qui peuvent être parfois très, très directes, on comprend un peu plus là où l'auteur a voulu aller.
Merci beaucoup Maxime Chattam, et je rappelle le titre de votre nouveau roman chez Albin Michel, Insectes. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, chers auditeurs, c'est à vous de me dire quel est votre grand roman. Aujourd'hui, c'est Marion qui se prête au jeu. Elle nous a contactés pour nous parler d'un grand roman de Nabokov. Mais ce n'est pas Lolita. Suspense, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est libre.
Chaque semaine, je vous demande quel est le livre au centre de votre bibliothèque. Celui qui vous a changé, que vous offrez à tout le monde. Bref. Votre livre préféré. Cette semaine, c'est donc Marion qui nous a contacté de Paris pour nous parler d'un roman de Nabokov, mais pas Lolita. Ce serait trop facile. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous nous avez contacté sur Twitter et vous nous avez dit Nabokov, mais pas Lolita. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'ai choisi Ada ou l'ardeur, qui est vraiment mon roman absolu, mon roman préféré depuis toujours.
Alors, il est nettement moins connu que Lolita. Vous nous le resituez, vous nous racontez un peu l'histoire ?
Oui, alors c'est effectivement, il est moins connu que Lolita, mais je crois que c'était le roman préféré de Nabokov lui-même. Et l'histoire, en fait, c'est une chronique familiale. C'est d'ailleurs le sous-titre du roman, qui est raconté de façon autobiographique par le héros qui s'appelle Van, qui est un vieil homme et qui revient sur toute sa vie. Donc l'histoire commence sur l'été de ses 14 ans et la première fois où il se rend en vacances dans le domaine d'Ardis, où vivent ses cousines Ada et Lucette. Mmh. Ada a 11 ans. Et c'est un coup de foudre entre Van et Ada, comme on peut en avoir à cet âge-là. Et en fait, tout le roman, toute l'histoire du roman, c'est l'histoire de cette passion naissante au départ qui va les suivre toute leur vie et qui est un amour plus fort que tout, à peu près aussi évident qu'il est impossible, puisque ces deux-là sont de la même famille.
Ça a l'air beau comme ça, mais ça ne se passe pas aussi bien que prévu.
Oui, alors c'est effectivement très compliqué. Il y a beaucoup il y a des rebondissements. Alors je veux pas trop en dévoiler, mais c'est vraiment, c'est des personnages qui sont extraordinaires, littéralement, et notamment le personnage d'Ada qui n'est pas la narratrice, mais qui est vraiment le personnage central, et qui sont absolument hors du commun. Et il y a une espèce de romanesque dans ce roman. Qui est absolument superbe.
Pourquoi il vous a marqué ? Vous l'avez lu jeune, vous étiez amoureuse à 14 ans, pourquoi ?
Alors non, je l'ai lu. Alors oui, je l'ai lu jeune, mais pas aussi jeune que ça. Je l'ai découvert en fait à 19 ans, je pense. Et je l'ai découvert complètement par hasard, parce que en fait, je l'ai découvert grâce à un autre roman. Mmh. J'ai lu par hasard le roman Deux étés d'Éric Orsenna, qui raconte l'histoire d'un traducteur qui s'exile en Bretagne pour traduire Ada de Nabokov, qui est réputée intraduisible. Tous les habitants du village autour de lui se mettent à lui donner un coup de main pour l'aider dans cette mission impossible. Et en fait, le bouquin d'Orsenna, qui est très drôle et très, très enlevé, et qui surtout témoigne d'un vrai amour de Nabokov, m'a donné très envie de découvrir Ada.
Ah, c'est chouette de découvrir un livre en lisant un autre. Et Lolita, vous ne l'aviez pas lu du tout ou vous aviez déjà lu Lolita de Nabokov et ça vous avait plu et donc vous étiez en terrain ami ?
Alors, j'avais lu Lolita, j'ai dû le lire au lycée, je pense. J'avais aimé sans plus, donc je n'étais pas forcément en terrain très ami. je pense que j'étais aussi un peu jeune probablement pour avoir suffisamment de recul. Lolita, c'est une œuvre qui est assez complexe quand même. Enfin, Ada aussi d'ailleurs. Mais voilà, j'y suis pas allée justement avec un a priori très favorable grâce à Lolita.
D'accord. Et Ada ou l'ardeur, vous l'avez proposé, fait découvrir à d'autres du coup ?
Oui. Je l'ai fait lire. Alors, c'est un roman qui est quand même un peu exigeant, hein, qui est à la fois très cérébral, parce que Nabokov a une écriture qui est quand même très cérébrale, et en même temps qui est très sensuelle, enfin, qui réussit le tour de force d'être les deux à la fois. Mais disons que c'est un gros pavé, c'est pas... Il y a deux longues pages de description sur les papillons qui sont pas forcément très très simples à aborder. Donc je l'ai fait découvrir au maximum, mais pas forcément à tout le monde.
Bon, on espère que des auditeurs vont s'en emparer. Ada ou l'ardeur, donc publié en 1969. Merci beaucoup Marion.
Mais merci à vous.
Europe 1.
Et si vous aussi, vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous, il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission où vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons toutes vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque du camarade Laurent Mariotte.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Laurent Mariotte vient de publier « Mieux manger toute l'année » aux éditions Solar. 365 recettes pour respecter les saisons dans son assiette. Je me suis dit que sa bibliothèque ne devait pas contenir que des livres de cuisine. Eh bien, je ne m'étais pas trompé. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci de nous recevoir chez vous. Alors, bon, On va pas décevoir les auditeurs. On va y aller tout à l'heure parce que en entrant, on a croisé la cuisine, un peu particulière d'ailleurs, forcément, on est chez vous. Et il y a forcément des livres de cuisine dedans. Mais on est dans le salon là, et c'est un appartement très haut de plafond. Et les livres vont jusqu'au plafond, jusqu'en haut.
C'est vrai, c'est la première fois que j'ai une grande bibliothèque comme ça qui va pratiquement du sol au plafond. Ouais.
Alors c'est tout un pan de mur, coupé en deux par la cheminée, un grand miroir, et de part et d'autre, on a deux immenses bibliothèques. Vous avez tout lu ?
Non. J'ai beaucoup de livres qui sont à ma femme, là. Moi, j'en ai lu quelques-uns, quand même. Ouais, heureusement. Mais non, j'ai pas tout lu.
Bon, le problème, c'est que tout en haut, là, c'est à 4 mètres de hauteur, les livres.
Fais la courte échelle, si vous voulez.
Vous avez vu un escabeau ? J'ai vu un escabeau.
J'ai un escabeau parce que, justement, je mets les livres que j'ai lus il y a très longtemps en haut et les plus récents en bas que je viens de lire, que j'arrive pas encore à mettre en haut tout de suite. Il y a un petit cérémonial pour arriver jusqu'au sommet.
À quels sont les livres qui méritent d'être en haut, d'ailleurs ?
C'est ceux que j'ai lus peut-être une fois ou deux et que j'ai beaucoup aimés et qui font partie pour moi des classiques, on va dire. Donc, ils sont en haut. Ouais.
Mais on relit rarement un livre.
C'est vrai. On regarde des films plusieurs fois, mais les livres, c'est rare de les. Je pensais à ça tout à l'heure en vous attendant parce que je regardais L'écume des jours, qui est de Boris Vian, qui est un livre qui m'a vraiment marqué quand j'étais ado. Ce que j'ai adoré, pour moi, c'était vraiment l'ouverture des possibles, comme on dit, et l'imaginaire à foison et à gogo. Et je ne l'ai pas relu, en fait. J'ai vu le film, mais je n'ai pas relu L'écume des jours depuis, quoi. J'ai envie de le relire.
Est-ce que oui, ça fait écho avec vous parce qu'il y a le pianoctel chez Boris Vian qui est une très belle métaphore. Donc je rappelle, c'est une sorte de machine. Quand on appuie piano, quand on appuie sur une touche, ça déclenche tel cocktail, tel alcool et une autre touche, tel autre alcool. Et à la fin, ça fait un cocktail en fonction de notre émotion.
C'est Colin.
Alors, c'est, en fait, c'est ça la cuisine.
C'est ça, exactement.
Servir de ses émotions.
Et puis c'est un peu comme de la musique, la cuisine. C'est vrai qu'on n'arrête pas de se dire, mais c'est incroyable, encore une nouvelle recette, un chef cuisinier inventer telle ou telle composition, mais c'est comme le solfège, c'est un assemblage de saveurs, de parfums, de goûts, et finalement on les combine et puis on arrive à autre chose. Ouais.
Pardon, peut-être c'est caché, peut-être c'est dissimulé, mais quelle est l'organisation de la bibliothèque?
Il n'y en a pas. C'est un bordel sans nom. Il n'y a pas d'organisation.
Désobligeant.
Il y a un bouquin de des proches, il y a un guide de voyage.
À côté d'Oscar Wilde.
Voilà, il y a une biographie de Romy Schneider. Il y a tout, quoi.
Et quel Oscar Wilde, quand même. De Profundis, c'est la lettre qu'il écrit quand il est en prison, emprisonné pour homosexualité. C'est quand même quelque chose de bouleversant. Ce sont tous vos livres, ici?
Non, c'est le coin de ma femme, là, effectivement. C'est un peu mélangé, en fait, pour tout vous dire. Donc, faut piocher, voilà. Vous me dites ce que vous voulez, je vous dis si je l'ai lu ou pas. En gros, c'est un peu ça.
Alors, justement, on a deux Desproges, là.
Vous êtes, j'adore.
Particulièrement fan de Desproges.
Ouais, celui-là, surtout.
Voilà,
encore des nouilles, voilà, ça, j'adore. Ça, c'est fantastique, ça, je le conseille vraiment.
Desproges, encore des nouilles, chronique culinaire.
Ben oui, parce qu'il adorait la cuisine. Il était chroniqueur dans Cuisine et Vin de France, Desproges. Et à l'époque, il n'y avait pas d'argent pour le payer, donc il se faisait payé en vin. Et c'était vraiment, j'aurais adoré le connaître parce qu'il adorait vraiment les bonnes bouteilles et la bonne table. Ouais.
Qu'est-ce qu'il raconte dans ses chroniques culinaires ?
C'est plein de choses. Là. C'était celle qu'il faisait dans Cuisine et Vins de France, justement. C'est l'Espagne, ici, notre champagne est séchée comme le jambon. Enfin voilà, c'est Desproges qui parlent de cuisine et de vin. Ouais. Ouais, ça fait un moment que je l'ai lu celui-là.
Et qu'est-ce qui vous plaît chez Desproges en dehors de son amour de la cuisine ?
La dérision, quoi. La dérision et puis le fameux rire de tout, quoi. Voilà.
Est-ce qu'on peut rire de la cuisine, d'ailleurs ?
Il faut rire de la cuisine, bien sûr. Non, c'est vrai que pendant longtemps, ça a été une espèce de chapelle, la cuisine, avec un côté très militaire. On n'a qu'à voir le vocabulaire de la cuisine, une brigade, le coup de feu quand c'est le service, donc quelque chose de très rigide. Mais bien sûr qu'il faut rire en cuisine. Et les chefs, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux à avoir des cuisines ouvertes, être proches de leur personnel et à rigoler avec eux.
Ouais. Ça a changé, tout ça.
Ça a changé, mais avant, ça ne rigolait pas.
Moi, j'ai été serveur quand j'étais étudiant. La cuisine, ça rigolait pas, effectivement.
Ah non, mais il y a eu de la violence en cuisine, on peut le dire. Il y a eu des chefs violents en cuisine. Il y a eu vraiment des jeunes qui ont été dégoûtés de la cuisine. Ouais.
Et qu'est-ce qui a changé ? C'est la médiatisation, on s'est décomplexé.
La médiatisation et puis une nouvelle génération qui est arrivée, qui a dit « j'ai pas envie de subir ou de faire subir ce que j'ai vécu avec des chefs odieux, durs, pas sympas et vraiment martyrisants parfois ».
Mais à la fois, cette rigueur-là, ça a aussi contribué au prestige. Non ?
Alors, ça n'empêche pas, effectivement. La rigueur, elle doit toujours être là, absolument. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi en cuisine. Il y a un ordre. Il faut être assez, effectivement, concentré et précis, exigeant en cuisine. Ouais.
Il y a beaucoup d'écrivains américains, je remarque. Il y a Bret Easton Ellis.
Ça, c'est pas moi, ça.
Il y a Sylvia Plath.
Ouais, ça, j'ai pas lu.
Ça, c'est votre femme.
Oui, c'est ma femme, qui est vraiment bilingue.
Il y a beaucoup, beaucoup de romans, en fait. Il y a du Houellebecq.
Oui, ah, alors ça c'est drôle, oui. Tiens, la carte et le territoire. On m'a toujours dit, lis pas Houellebecq, que ça va pas te plaire, c'est glauque, machin. Donc, bon, d'accord, très bien. Et j'ai eu envie de le lire et j'ai adoré la carte et le territoire. Il y a un style, il y a un univers. Enfin, j'ai adoré le personnage. Alors, oui, c'est un petit peu évidemment désabusé, désenchanté, pas forcément optimiste, mais il y a plein de vérités, quoi. Donc.
Bah, c'est la lucidité de Houellebecq.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
C'est pas toujours game.
Ah non, mais il est lucide, ouais. Ah ouais, non, vraiment. Donc j'ai envie de lire les autres là. J'ai Sérotonine que j'ai pas encore lu. Ouais.
Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a Daniel Pennac, il y a David Foginquinos, ouais, il y a Leïla Slimani, encore un Goncourt, Romain Gary, Les Racines du Ciel. Vous lisez beaucoup de romans? Ou est-ce que vous avez, parce qu'il y a aussi beaucoup de livres journalistiques,
oui,
je vois.
Oui, je lis. C'est vraiment un mélange des deux. Je peux passer d'un roman à un essai, à une autobiographie, à une biographie. Il y a de tout. Ouais, rien ne m'arrête. Des bouquins sur les arbres, voilà. J'ai vraiment de tous les styles, ouais.
Et des bouquins de voyage aussi. C'est vraiment une salade composée, votre bibliothèque.
C'est ça. C'est un peu un Pokéball. C'est vraiment.
Oui, il y a l'Écosse, tout.
Non, mais c'est vrai que je viens de prendre conscience qu'elle n'était pas du tout rangée par ordre, en fait. Vous venez de me faire prendre conscience d'un truc. C'est que c'est un joyeux bordel. Mais j'aime bien, en fait, le
et
bordel.
Tant mieux, en fait.
C'est un bordel organisé, quoi.
Il y a Raymond Carver, c'est un de mes écrivains préférés, grand novelliste.
Alors... Ah, j'aime bien les nouvelles, moi. C'est grâce à ça que je me suis mis à la lecture, moi, effectivement. Ouais, les nouvelles, c'est très sympa, ça.
Vous en relisez de temps en temps, une par-ci, par-là ?
Oui, j'aime bien parce qu'on pioche, effectivement. C'est un rythme. Qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, le problème, c'est comme les films. J'ai lu des choses que j'aime et j'oublie l'auteur, j'oublie le titre. Mmh. Pareil au cinéma. Donc, je sais que j'ai lu des nouvelles dernièrement.
Ce qui compte, c'est que ce soit en vous.
Mais c'était, ouais, c'est ça. Mais, c'était, ouais, ouais, mais j'aime bien lire régulièrement. En tout cas, que ce soit une sorte de gymnastique comme ça, régulière. Ouais.
Et là, justement, il y a un fauteuil juste à côté de la bibliothèque, oui, avec, ouais, le repose-pied qui va avec. Ouais. Franchement, on a envie de lire là-dedans.
Ah oui, il y a la petite lampe qui va avec. Ça, c'est vrai que c'est un petit coin que j'aime, se poser. Aujourd'hui, on va très vite tout le temps, on court tout le temps. On a des métiers où on court tout le temps. Donc, c'est surtout le week-end, hein, que j'arrive à faire ça. C'est se poser avec un bouquin. Voilà, ça, c'est vrai que c'est le comble du repos, quoi, pour moi. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jean-Pierre Coff, ah, le plaisir,
ouais,
à petit,
ouais,
prix.
Ah oui, c'est un ami.
Jean-Pierre Coff, c'était un grand ami.
Oui, c'est un bon ami. Ouais, un Lorrain aussi, comme moi.
Ah, mais oui.
Ouais. Et oui, je crois qu'il me l'avait signé d'ailleurs, celui-là. Et c'est son best-seller, ça. Il en a vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Ces fameux repas à moins de 10 euros pour 4. Oui, oui, ben, j'aimais beaucoup Jean-Pierre Coff. J'aimais son ton, son style, ses emportements, quoi, ses exagérations.
Il a contribué aussi à cette médiatisation de la cuisine dans un style un peu décomplexé, parce qu'il y avait Joël Robuchon aussi. Oui, bon appétit, bien sûr, mais c'était.
Rien à voir.
Même si, malgré tout son. Un immense talent, c'était quand même un peu plus engoncé.
Mais Jean-Pierre, il était surtout attaché aux produits, lui. Voilà, il a voulu que les gens prennent conscience des produits qu'ils achetaient. Son fameux coup de gueule sur le jambon, on s'en souvient tous, mais c'était pour gueuler contre la malbouffe, l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on ne le voit plus que jamais, qui nous a emmenés dans des contrées délirantes de gras, de sel, de sucre. Donc oui, il a fait beaucoup pour ça. Oui.
Bon, bah, puisqu'on en parle, j'aimerais bien visiter la cuisine quand même.
Eh bien, allons-y.
Quand même très particulière, elle est dans l'entrée, je l'ai croisée tout à l'heure, elle est sur une sorte de mezzanine.
Oui, c'est en hauteur, ouais.
Sur
c'est
un demi-étage.
Parce qu'elle est au-dessus d'un escalier, enfin, c'est l'immeuble qui est foutu comme ça, donc ils ont mis la cuisine ici, et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu, elle a un petit côté théâtre, quoi.
Et c'est génial pour, ouais, vous, c'est ça, c'est une estrade.
Ah ben j'adore, regardez, j'ai la lumière en face, quand j'écris mes bouquins, je me mets là. Non, c'est super, je fais mes recettes juste derrière, c'est une espèce de bureau cuisine, c'est ça que j'aime. C'est une espèce d'alcôve, hein, parce qu'elle n'est pas grande.
Oui, elle n'est pas immense. Non. Alors que moi, je me suis dit, ça doit être une cuisine gigantesque avec un îlot sans.
Pas de micro-ondes, vous avez vu. Pas, j'ai un robot qui hache, c'est tout. J'ai pas de thermomix ou machin, tout ça. Non, j'aime
cocotte
faire...
le creuset, magnifique.
Oui, bah voilà, il faut toujours avoir une belle cocotte quand même. Non, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée d'être un peu minimaliste en cuisine, en fait.
Et des livres, évidemment.
Ah bah oui, là, il y en a, ouais.
Et notamment un, là, qui est une sorte de grimoire.
Ah bah ça, oui, c'est le gouffé, ça.
Alors, c'est quoi le gouffé ?
Ah bah, le gouffé, c'est Jules Gouffé, qui était un cuisinier du 19e siècle, qui était pâtissier de Napoléon III et qui était un gastronome complètement dingue, qui connaissait tout le monde et qui était le chef cuisinier du Jockey Club, qui était une sorte de cercle comme ça, un peu aristo. Mais surtout, c'était le premier à écrire un livre de cuisine avec les quantités et les temps de cuisson.
Pourquoi avant on le faisait pas ?
Ah non, avant on mettait tout en flou. En...
Débrouillez-vous, quoi.
Oui, débrouillez-vous, quoi. C'était pas organisé, il y avait pas de déroulé de recettes, comme on dit aujourd'hui.
Et vous vous en servez de celui-là ?
Je vais le lire de temps en temps. Ouais, j'aime bien m'y plonger de temps en temps. Ouais, je m'en sers pas pour cuisiner, mais j'aime bien rien que pour le style, quoi. Voilà.
Bon bah moi ça m'a donné faim. Je vais aller casser la croûte. Merci beaucoup Laurent Mariotte.
Je vous fais un petit doggy bag.
C'est gentil, je veux bien, oui. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Voilà,
c'était très sympa, merci.
À bientôt.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Julien Or pour la prise de son et je rappelle le titre du nouveau livre de Laurent Mariotte, Mieux manger toute l'année aux éditions Solar. Restez là, les libraires de La Voix et Livre ont médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Ils vont essayer de vous donner envie de les lire. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre, il est l'heure de flâner avec l'équipe des libraires. Aujourd'hui, c'est la librairie Lamartine à Paris qui est venue en force avec deux libraires de la Lamartine, Stanislas Rigaud et Jérémy Banel. Salut les libraires.
Salut Nicolas. Bonjour.
On commence avec vous Stanislas, avec l'une des pépites de la rentrée, publiée par les super éditions de l'Iconoclaste.
Tout à fait, Jean-Baptiste D'Andrea avec 100 millions d'années et un jour. Donc c'est son second roman, il avait été très remarqué avec le premier, Marraine, qui avait été couvert de prix. Et qui avait effectivement fait assez sensation.
Deux ans, trois ans.
Oui, voilà. Et qui était effectivement l'histoire d'un enfant un peu différent qui se racontait dans une aventure. C'était très, très réussi, très tenu. Et là, il monte d'un cran avec 100 millions d'années et un jour qui va vous raconter une histoire d'aventure. L'histoire d'un type qui s'appelle Stan, et c'est pas pour ça que j'ai choisi le livre, je vous promets.
Vous croyez, vous
un paléontologue qui décide un beau jour de partir à la recherche d'un squelette, un squelette de dinosaure. Ce squelette se trouverait dans une caverne qui elle-même se trouverait... Vous remarquez, il y a beaucoup de conditionnels cette histoire. Hein. Se trouverait au pied d'un glacier entre la France et l'Italie. Okay. Il a fait financer l'expédition par sa fac. Il embauche son ex-adjoint, son ex-assistant, qui lui-même vient avec un ex-assistant. Ils prennent sur place du matériel, un type qui connaît la montagne comme sa poche, okay. Et tout le monde y va. Bien évidemment, rien ne va vraiment se passer comme prévu. Et c'est là que va commencer le livre, qui va s'ouvrir en deux. D'un côté, la quête de cette mystérieuse caverne. Et de l'autre côté, Stan va revenir sur sa vie, une vie pour le moins difficile, notamment son enfance.
Et les deux se rejoignent
les
à un moment,
se rejoignent,
j'imagine.
Bien évidemment, vous avez un livre qui est parfaitement construit, c'est-à-dire qui vous saute à la figure dès les premières pages, bourré de rebondissements. Et dans la partie aventure, ce qu'on pouvait attendre, mais aussi dans la partie jeunesse de Stan. Donc les deux fonctionnent vraiment à bloc, mais ce n'est pas tout, il y a l'écriture. L'écriture de Jean-Baptiste D'Andrea qui est à la fois extrêmement tenue, le livre est assez court, assez dense, et en même temps extrêmement lyrique. Et sa force des images vous saute à la figure autant que les rebondissements du texte. Résultat, vous êtes littéralement emporté. C'est un des très très bons romans de cette rentrée littéraire qui était elle-même une très très bonne rentrée littéraire. Un coup de cœur de très nombreux libraires et je vous incite fortement à découvrir ce livre.
C'est le point commun de ces livres aux éditions de l'Iconoclaste, le côté punchy des livres.
Oui, c'était on retrouve
Aldine Dieudonné, La vraie vie, tout
voilà,
ça, toujours
Céline...
les couvertures assez flashy.
Assez boom, voilà, ouais, sur ça. Et c'est pareil pour Le Coulon. Une bête au paradis, oui. Qui est un délicieux roman, qui est un des grands coups de cœur de la librairie aussi, et qui est pareil, ramassé, il y a un vrai travail sur le côté tendu des ouvrages, qui est un peu effectivement la patte de la maison d'édition L'Iconoclaste.
C'est à vous, Jérémy Banel, avec un roman culte que je ne connaissais pas, et que voilà. Peu de gens connaissent encore.
Et que peu de gens connaissent, c'est ça. Mais ça va venir, on va y travailler.
Au contraire, allez-y.
Alors c'est un roman punchy également, hein, mais là au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelques coups de poing quand même qui sont distribués dans une scène ou deux. C'est un roman qui s'appelle Samedi soir, dimanche matin, qui est un titre des années, fin des années 40, qui est réédité actuellement par les éditions L'Échappée. Ça faisait très longtemps qu'il n'était plus disponible. Et ils ont eu la très bonne idée de le rééditer, en plus dans une belle présentation. Et avec une quatrième de couverture, moi qui m'a de suite attiré, quand on explique qu'un roman a inspiré Ken Loach, fait faire des chansons à Madness, et que par ailleurs, ça a donné son titre à un album des Arctic Monkeys, je me dis que tiens, j'ai plutôt envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Et c'est le roman donc, d'Arthur, du jeune Arthur, dans l'Angleterre de la fin des années 40, il vit à Nottingham, il a 20 ans, il travaille à l'usine. Et c'est à peu près tout. Et le samedi soir, comme le dit le titre, pour noyer entre autres son ennui, sa colère dont il ne sait pas trop vers quoi la diriger, il va au bar, il boit quelques bières, éventuellement il essaie de séduire la femme des collègues, il y arrive assez souvent, et ça finit assez souvent mal. C'est plein d'énergie, c'est très 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 bien écrit, ces espèces de tranches de vie, très bien traduit aussi, du coup on y retrouve toute une énergie, une espèce d'argot particulier à une classe ouvrière, et c'est surtout un portrait de cette Angleterre de l'après-Seconde Guerre mondiale, eu un manque de sens un petit peu dans la vie, et cette jeunesse qui cherche quelque chose sans trop savoir quoi, incarnée par ce jeune Arthur.
Et l'auteur ?
L'auteur, c'est Alan Stilito, pardon, et il avait fait, entre autres, qu'on connaît peut-être un petit peu plus, La solitude du coureur de fond, qui était son titre le plus connu. Et il fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Angry Young Men, Les jeunes hommes en colère, qui est un mouvement littéraire anglais de cette période-là, qui incarne un petit peu toute cette période.
Ça donne envie, vraiment, je découvre ce roman culte, donc, qui va sans doute redevenir culte grâce à vous. Samedi soir, dimanche matin, c'est son titre. Alan Sillito, traduit par Henri Delgove. Et donc Jean-Baptiste D'Andrea pour vous, Stan, 100 millions d'années et un jour. C'est à l'Iconoclaste. Merci beaucoup, les libraires.
Merci. Merci, Nicolas.
Direction le rayon jeunesse maintenant avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Et comme chaque semaine, on retrouve votre conseil littérature jeunesse. Et alors là, aujourd'hui, vous êtes fait plaisir avec un grand classique de la littérature jeunesse, L'énorme crocodile de Roald Dahl.
Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Roald Dahl, vous connaissez en revanche forcément l'un de ses chefs-d'œuvre. Citons entre autres Nicolas, James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie, Un amour de tortue, Les minuscules. Je ne vais pas vous faire toute la bibliographie. Aujourd'hui, je vous présente L'énorme crocodile, c'est l'histoire d'un crocodile, bien sûr, bien en chair, qui vit dans la rivière la plus boueuse d'Afrique. Il se réveille un jour avec une folle envie de manger un petit garçon ou une petite fille. Allez, ou les deux, tiens. Il traverse la forêt pour aller en ville à la chasse aux petits-enfants. En route, il rencontre Double Croupe l'hippopotame, Trompette l'éléphant, celui-là, je crois que vous le connaissez, Jojo la malice le singe ou encore Dodu de la plume l'oiseau. À chaque fois, il leur raconte son projet, comment il compte s'y prendre pour dévorer un petit enfant bien dodu.
Alors comment il s'y prend finalement ?
Alors il montre plusieurs stratagèmes, comme la technique du cocotier. Cette technique bien précise, c'est le comédien François Morel qui vous la raconte.
L'énorme crocodile parvint à un endroit où il y avait de nombreux cocotiers. Il savait que les enfants y venaient souvent chercher des noix de coco. Les arbres étaient trop grands pour qu'il puisse y grimper, mais il y avait toujours des noix de coco à terre. L'énorme crocodile ramassa à la hâte toutes celles qui jonchaient le sol, ainsi que plusieurs branches cassées.
Et maintenant, passons au piège subtil numéro 1,
murmura-t-il.
Je n'aurai pas à attendre longtemps avant de goûter au premier plat.
Il rassembla les branches et les serra entre ses dents. Il recueillit les noix de coco dans ses pattes de devant, puis il se dressa en prenant équilibre sur sa queue. Il avait disposé les branches et les noix de coco si habilement qu'il ressemblait à présent à un petit cocotier perdu parmi de grands cocotiers.
Lu par François Morel, c'est classe.
Grande, grande classe. Et oui, Nicolas, et c'est pour ça que je vous parle de L'énorme crocodile aujourd'hui. Ce texte, il a été écrit en 1978, mais il vient juste d'être réédité en livre audio. La réalisation est vraiment sublime sur une musique originale d'Isabelle Albuquerque, l'art de raconter des histoires de François Morel. Une belle occasion de découvrir ce livre absolument génial pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et surtout, ce genre de livre audio, Nicolas, est une formidable entrée en matière dans la lecture pour les tout-petits. Vous pouvez très bien leur faire écouter dès l'âge de 3 ans, ça fonctionne parfaitement. Et non, ce n'est pas parce qu'ils écoutent un livre qu'ils ne voudront pas en lire plus tard. Au contraire, ils écoutent, ils aiment, ça leur donne envie de découvrir des nouvelles histoires et d'en lire eux-mêmes tout seuls plus tard. Voilà, c'est dit.
Et on rappelle le titre, L'énorme crocodile de Roald Dahl sur une musique originale d'Isabelle Albuquerque et racontée par le comédien François Morel chez Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Salut.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.